Studio Tamani, voici les informations en français.
18h sur les antennes de la radio Diamana à Tombouctou, même heure ici à la Maison de la Presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir, le sommaire. Vers la libération des 11 leaders politiques arrêtés le 20 juin dernier à Bamako, selon la coalition des partis signataires de la déclaration du 31 mars, les juges auraient ordonné l'élargissement de ces responsables politiques. Sensibiliser les élèves de l'enseignement classique et coranique au danger des fausses informations et discours haineux, c'est l'objectif d'un atelier qui a débuté ce mardi à Bamako. Des élèves de Bamako et de Ségou participent à cette session. L'Afrobasket, le Mali joue en ce moment contre le Nigeria dans la catégorie des moins de 18 ans. La rencontre est qualificative pour les demi-finales de la compétition. Voilà pour le sommaire, les détails à suivre avec Lala Diarra Touré. Serundao assure la connexion technique. Merci de nous choisir. Les juges auraient ordonné la libération des 11 leaders politiques arrêtés le 20 juin dernier. C'est en tout cas ce qu'indiquent des membres de leur coalition signataires de la déclaration du 31 mars. Toutefois, ils précisent que ces responsables politiques ne sont pas encore rentrés chez eux, leur sort étant encore lié à la décision du parquet qui peut faire appel de cette décision. Les détails, c'est avec Fatia Tara.
Ces responsables politiques sont tous membres de la coalition signataire de la déclaration du 31 mars. Un collectif de partis et de mouvements politiques qui réclament un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Ils ont été arrêtés le 20 juin dernier alors qu'ils participaient à une réunion à Bamako. Une action qui leur a valu d'être poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État et tentative de trouble à l'ordre public. Après leurs arrestations, ces leaders politiques ont été entendu par la justice sur une réunion clandestine alors que les partis politiques sont interdits d'activité au Mali. L'arrestation de ces responsables politiques a été condamnée par de nombreux partis, mouvements politiques et organisations de la société civile. Depuis, les partis politiques avaient décidé de ne prendre part à aucune activité politique organisée par les autorités. C'est ainsi qu'ils ont boycotté la rencontre avec l'autorité indépendante de gestion des élections et la rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.
Et pour le politologue Oumar Toumani Diallo, la prochaine libération de ces responsables politiques pourrait être un soulagement pour leurs compagnons de lutte. L'observateur estime cependant que la décrispation de l'atmosphère politique dépendra de l'organisation des élections au Mali. Il est joint au téléphone par Fatih Yattara.
Ça vaut un souffle de soulagement pour leurs camarades politiques parce que s'ils font des vagues à leurs affaires, librement, pendant que les collègues, les camarades sont en prison, pendant qu'ils ont signé un même pacte, ça peut être un acte de trahison. Mais s'ils sont tous dehors, alors là, c'est un soulagement pour les autres qui n'ont pas été arrêtés. Il faut que les autorités arrivent à donner des calendriers respectables par les responsables politiques. Quand on a un calendrier et que les autorités arrivent à respecter leur engagement par rapport à ces calendriers, alors ça va décanter, je pense, très bien la situation.
Vous pouvez donner votre avis sur ces informations sur notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Autre actualité, un atelier de formation sur le fact-checking a débuté ce mardi à Bamako. Objectif, sensibiliser les élèves des écoles classiques et coraniques de Bamako et de Ségou sur les dangers liés aux fausses informations et aux discours haineux. C'est une initiative du projet Impact Award. Elle est financée par le département d'État américain en charge de l'éducation et de la culture en collaboration avec les centres Méridian International. Moussa Ag Mahaha.
Ils sont au nombre de 30 jeunes venus de différentes organisations de la société civile à prendre part à cette formation sur la vérification de l'information ou le fact-checking. Selon Mohamed Danyogo, initiateur du programme, cette session a pour objectif de promouvoir une utilisation responsable des médias et des réseaux sociaux.
L'idée étant de les outiller afin qu'ils puissent par eux-mêmes vérifier l'information. Ceux-là qui sont dans les écoles confessionnelles, notamment les madrasas, on a constaté qu'ils ne sont pas associés à ces formations-là et on a jugé nécessaire de les associer. On va développer développer un site à côté de fact-checking qui va leur permettre de publier leur production sur tout ce qu'ils auront à vérifier à l'avenir.
Les participants ont salué cette initiative et souhaitent beaucoup apprendre sur la vérification de l'information lors de cette session.
C'est de pouvoir faire la différence entre les bonnes et les fausses informations.
Connaître les outils nécessaires afin de vérifier les mauvaises informations.
Les gens soient vraiment bien informés et avec des informations qui sont vérifiées.
Au total, 120 jeunes seront outillés sur les techniques de vérification de l'information. Cette formation se poursuit jusqu'au 17 septembre 2024.
Merci Moussa Aga Mahaha. Ouvrons à présent la page sport de cette édition. Compétitions africaines de football. Le Djolibas et les stades maliens de Bamako. Les deux représentants maliens jouent ce week-end pour le compte du deuxième tour de la Ligue des champions africaines pour les Rouges de Bamako et la Coupe CAF pour les Blancs de Bamako. Au même moment, en afro-basket, des moins de 18 ans garçons, le Mali affronte en ce moment le Nigeria pour valider son ticket pour les demi-finales. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Juliette Koulibaly.
Le représentant malien à la Ligue africaine des champions, le Djolibas ACI, recevra Asco Kara du Togo ce samedi 14 septembre au stade du 26 mars de Bamako. Le match retour est prévu pour le 22 septembre prochain. Exempté du premier tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine, les Blancs de Bamako participeront également au deuxième tour des préliminaires. D'abord, le stade malien se rendra au Libéria pour affronter le Paynesville FC et dans une semaine, les Blancs recevront les Libériens à Bamako au stade du 26 mars pour le match retour. Par ailleurs, en afro-basket qui se joue en Afrique du Sud, les U18 garçons du Mali, après avoir battu la Côte d'Ivoire 73-69 en dernier match de phase de poule, affrontent en ce moment leurs homologues du Nigeria. Une victoire leur permettra d'accéder aux demi-finales. Rappelons aussi que les filles U18 du Mali sont déjà qualifiées en demi-finale. Elles affronteront demain le Cameroun après avoir éliminé le Rwanda sur le score de 86-57.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Interrompre de façon volontaire une grossesse est une pratique clandestine récurrente dans notre pays, selon des spécialistes en santé. Pourtant, la pratique est interdite par la loi au Mali, même s'il y a des exceptions. Alors qu'elle nécessite un contrôle médical, l'interruption volontaire de la grossesse est souvent faite en dehors du cadre normal. Pourtant, les médecins préviennent contre de multiples dangers qui peuvent en découler, parmi lesquels le décès de la maman. Amadou Sadio Camara.
L'avortement, d'une manière générale, est l'interruption spontanée ou provoquée d'une grossesse avant 22 semaines. Il est dit clandestin, selon les médecins, lorsqu'on utilise des moyens en vue d'expulser un fœtus qui évolue normalement et sans danger pour la vie de sa mère. Que pensent donc les citoyens de cette pratique qui mine notre société?
De nos jours, l'avortement n'est pas une bonne chose. Elle peut engendrer beaucoup de conséquences chez la jeune fille. Religieusement, ce n'est pas une bonne chose. Déjà que la grossesse est contractée, il faut donc garder l'enfant en vie.
Il y a des médicaments dont leur prise pourrait tuer l'enfant, alors que cela n'était pas le but recherché.
L'avortement n'est pas une bonne chose.
Les médecins sont formels. L'interruption clandestine de grossesse peut avoir des conséquences graves sur la santé de la patiente. Docteur Khalifa Traoré, gynécologue obstétricien.
L'avortement provoqué clandestin entraîne des complications très graves, comme par exemple les hémorragies, les infections. Et dans d'autres cas même, la patiente arrive à un état très grave où le décès est même constaté.
L'avortement clandestin est fortement interdit par les textes au Mali. Selon la loi, les auteurs sont passibles à des poursuites judiciaires. Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste.
Les auteurs d'un avortement peuvent encourir une peine de 5 ans d'emprisonnement et facultativement de 20 000 à 1 million de francs CFA d'amende. S'agissant des médecins et autres, peuvent être sous la coupole aussi de condamnation de 2 ans.
Le recours à la clandestinité de l'avortement s'explique par les caractères conséquents de notre société, affirme le sociologue Kounandji Diarra. Une situation qui contribue à accentuer le phénomène.
C'est un sujet tabou pour les conservateurs. Rares sont les familles où les parents discutent en famille parce que ce sont des conservateurs. C'est pourquoi certains phénomènes se passent derrière eux des conséquences dramatiques.
Au Au-delà de tout ce qui précède, il est possible de procéder à un avortement, mais dans des conditions bien précises. Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste.
Les cas échéants où l'on peut être amené à l'interruption, ça c'est les cas de force majeure où le diagnostic d'un médecin spécialiste peut amener à des complications de grossesse qui peuvent mettre soit la vie de la maman en danger, soit la vie de l'enfant en danger ou des deux.
Néanmoins, les spécialistes de la santé recommandent toujours de se rendre dans des structures médicalisées propres à la pratique.
Retrouvez désormais nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. À 18h passé des 10 minutes, le thermomètre affiche 29 degrés Celsius sur Bamako et environ. Sekou Gadjigou est avec moi dans ce studio pour l'introduction du débat. Sekou, bonsoir. Quel est le thème? Qui sont vos invités?
Bonsoir Lala. Le grand dialogue de ce soir sera consacré à la seconde partie du débat public. Sur les inondations au Sahel, quelles solutions? Un débat coproduit à Maradi en République du Niger par les studios Kalangou du Niger, studio Tamani du Mali et studio Yafa du Burkina Faso. Ce soir, nous aurons droit aux réactions, commentaires et questions du public aux invités.
Fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez les écouter gratuitement et les magazines qui vont suivre en appelant le service Kounafouni au 37 321. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Somptueuse soirée à tous. À présent, le magazine Tous les enfants du Mali, le numéro de cette semaine, s'intéresse à l'éducation des enfants dans les grandes familles. En effet, l'éducation familiale est un processus par lequel une famille élève et éduque un enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Cependant, pour certains, éduquer son enfant dans un milieu à multiples instructions peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Une signature de Adamon Amadou Haïdara.
Chacun a sa lecture sur la question de l'éducation des enfants dans les grandes familles. Écoutons ces quelques réactions.
Éduquer son enfant dans une grande famille n'est pas facile. À chaque fois qu'on essaie de lui inculquer des valeurs morales, des membres de la famille pensent qu'on est trop sévère et se sentent frustrés.
L'enfant sera entouré par ses camarades. Ça, c'est l'avantage d'une grande famille. Mais la grande famille rassemble des personnes qui n'ont pas les mêmes éducations. Ça peut fortement influer sur l'éducation de l'enfant.
Souvent, tu peux avoir les 3 femmes, 4 femmes dans une couple. Bon, les enfants sont nombreux. Quand tu dis que tu vas éduquer les enfants, souvent ils vont te dire que tu es méchante.
L'enfant peut causer du tort à une personne. Il suffit de le gronder pour voir sa maman se fâcher, alors qu'il n'a pas raison.
La façon dont nos parents éduquaient les enfants. De nos jours, si tu essaies de reproduire les mêmes modèles, tu ne t'entendras avec personne.
Au Mali, les grandes familles étaient des institutions. Elles avaient en leur sein un certain nombre de principes de fonctionnement, y compris des principes sur lesquels les enfants étaient éduqués. Balafane, enseignant et responsable local des services de la culture de Dioula.
Vous trouverez que l'enfant est adopté par ses tantes, ses oncles, ses frères et ses demi-frères. Vous conviendrez avec moi qu'une maman serait plus docile avec son enfant. Et habituellement chez nous, il faut que l'enfant soit soumis au moins à certaines pressions. Autrefois, c'était ses composantes, la famille, qui aidaient beaucoup à réussir l'éducation d'un enfant.
Notre interlocuteur reconnaît tout de même les difficultés liées à l'éducation de l'enfant dans un milieu à multiples formes d'éducation. Balafane.
Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'environnement social est tellement affecté dangereusement par de mauvaises pratiques. Alors, à beau donner une éducation à ton enfant, l'environnement social réduira généralement ton effort.
L'environnement réduira ton effort à travers également les enfants qui peuvent s'entraîner dans des comportements de travers, affirme le sociologue Fodié Tandjigoura.
Les enfants font les mêmes activités ensemble et donc un ou deux éléments extrêmement toxiques peuvent entraîner les autres à travers des vices, à travers toute autre chose. Ça peut être vraiment l'inconvénient qu'on peut observer dans l'éducation des grandes familles si la rigueur, n'est pas de mise.
Alors comment
et réussir l'éducation de son enfant en grande famille, Foyer Tandjougoura donne quelques pistes.
Les parents doivent être plus proches des enfants, les comprendre, partager leurs inquiétudes, vous échanger. C'est à ce prix-là qu'on arrive à éviter ce qu'on craint, mais pas une éducation totalement arbitraire où l'enfant est à gauche, les parents sont à droite. Ça ne résout pas les problèmes. Au contraire, ça peut aboutir à des catastrophes.
À retenir donc que dans chaque chose, il faut garder le juste milieu.